Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité métropolitaine. Depuis quelques semaines, nous y avons dédié une série d'émissions à la biodiversité et à la faune sauvage dans la métropole toulousaine. Celle d'aujourd'hui a également trait à la nature et aux sciences du vivant de manière générale, à travers les liens qui les unissent à l'art. On sait que la nature a souvent inspiré les peintres, les poètes et les musiciens. Oscar Wilde disait même que c'était la nature qui imitait l'art. Ce vendredi 3 avril s'ouvre au musée des abattoirs l'exposition « À l'écoute du vivant, biomimétiste entre art et science » qui explore à sa façon la manière dont les uns imitent les autres. Elle est visible jusqu'au 1er novembre et a été conçue et coproduite par le Quai des Savoirs pour son exposition annuelle. Quels peuvent bien être son contenu et son propos? Pourquoi est-elle présentée au musée des abattoirs et non pas au Quai des Savoirs? L'émission qui suit va vous donner toutes les réponses à ces deux questions. Et la personne la mieux placée pour y répondre, c'est Laurent Chicoineau, le directeur du Quai des Savoirs. Il a eu l'amabilité d'accepter mon invitation pour nous présenter cette très intrigante exposition. Bonjour et merci d'être au rendez-vous une fois de plus. Bienvenue dans nos studios.
Bonjour Eric.
Alors dites-nous donc pourquoi cette exposition annuelle du Quai des Savoirs se tient cette année au musée des abattoirs. Je crois savoir que c'est avant tout en raison de travaux actuellement en cours dans l'établissement que vous dirigez.
Voilà, exactement. Il y a peut-être deux raisons. La première, effectivement, c'est une raison totalement objective. C'est on est en travaux, on est en train de construire un auditorium dans la salle d'exposition. Puisque si vous vous souvenez, auparavant, on avait la possibilité d'accueillir des conférences, des conférenciers, des tables rondes dans la salle d'exposition elle-même à travers un espace qu'on avait réservé avec une petite estrade, une petite scène, on va dire, des écrans de projection, des sièges. Mais la problématique, c'est que pendant qu'on faisait des conférences, on pouvait pas visiter l'exposition parce que ça faisait trop de bruit, tout simplement, puisque tout dans le même espace, avec en plus une hauteur de plafond de 10 mètres, hein, puisque la salle du Quai des Savoirs, elle est très haute, eh bien tout ça, c'était pas possible. Et donc, on a monté un projet, dans le cadre de notre projet d'établissement qu'on a travaillé il y a déjà plusieurs années, hein, 2023, on avait fait cette proposition de construire finalement un auditorium à l'intérieur de cette salle d'exposition au rez-de-chaussée, donc ça va nous permettre comme ça d'accueillir à la fois des expositions et des conférences, et puis sur le toit de cet auditorium, finalement, on crée un étage, un nouvel étage dans la salle d'exposition et donc plus tard, on aura aussi une nouvelle salle d'exposition pour les Toulousaines et les Toulousains. Et puis la deuxième raison, c'est que depuis quasiment l'origine du Quai des Savoirs, on travaille beaucoup sur ces rencontres entre artistes et scientifiques, puisque le projet du Quai des Savoirs, le projet culturel, c'est vraiment ces croisements entre art et science, entre artistes et scientifiques, pour mieux comprendre aujourd'hui et puis se projeter dans demain. Et c'est vrai que cette fermeture de l'établissement, avec notre idée de dire, on va quand même proposer une exposition au public, ça a été tout de suite l'opportunité d'aller discuter avec Lauriane Gricourt, la directrice des abattoirs, et puis ses équipes, pour commencer à imaginer une collaboration possible et puis profiter de cette opportunité pour lui dire et si on travaillait ensemble, si on faisait quelque chose ensemble.
Alors, on va revenir bien sûr à cette collaboration qui a débouché sur l'exposition à l'écoute du vivant, mais je reviens au chantier qui est en cours actuellement, donc au Quai des Savoirs, au rez-de-chaussée pour ceux qui connaissent le lieu. Donc l'objectif, c'est de reconfigurer ce rez-de-chaussée. L'utilisation à venir, ça sera donc toujours bien sûr une salle d'exposition, une grande salle d'exposition, mais en plus un lieu pour des conférences et puis pour d'autres petites formes. Il y aura justement peut-être des croisements entre autres.
Voilà, exactement.
Entre art et science.
Exactement, ça sera bien sûr toujours une belle salle d'exposition et qu'on va d'ailleurs retrouver à la rentrée en octobre prochain, puisque la fin des travaux est prévue pour fin septembre. Et donc dans cet auditorium qui va faire 120 places, donc 4 places pour les personnes à mobilité réduite, on pourra évidemment faire des rencontres publiques, organiser des conférences, des séminaires, des tables rondes, mais aussi des choses très ludiques comme des quiz, des soirées quiz comme on a déjà commencé à le faire, des pitchs aussi comme on dit, c'est-à-dire qu'on va avoir des scientifiques mais aussi des comédiens qui vont pouvoir faire un peu des stand-up scientifiques et humoristiques, puisqu'on essaie de travailler aussi sur cette thématique, parce que c'est vrai que le monde qui vient, il est un petit peu complexe, un peu compliqué. Et donc, c'est intéressant aussi, bien sûr, de le comprendre et d'avoir toutes les données en main à travers ce que nous apportent les sciences. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir prendre un peu de recul et donc de traiter ça parfois avec humour. Et puis, ce sera aussi une belle salle de projection, puisqu'on va être un petit peu comme dans un petit cinéma, on va dire, hein, toute proportion gardée, bien sûr. Mais on aura la possibilité de faire des projections de films avec une très bonne qualité audio aussi immersive, un son 7.1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment pas de concurrencer les cinémas. Et d'ailleurs, on a de belles collaborations avec la Cinémathèque, je pense, par exemple, ou avec d'autres cinémas d'art et d'essai. L'idée, c'est plutôt de projeter des documentaires scientifiques, des films de recherche, parce qu'il y a beaucoup de films scientifiques qui sont très intéressants. Et puis aussi des films de création, puisque, au Calais Savoir, on est beaucoup sur cette articulation, comme je disais, hein, art, science, société, avec notamment tout un intérêt et un goût pour l'exploration des nouvelles technologies, pour l'exploration de la culture numérique, des cultures numériques de manière générale. Alors évidemment, intelligence artificielle, mais plein d'autres sujets. Et c'est pas forcément toujours high-tech, ça peut être low-tech aussi. Et donc, il y a toute une série de productions, de créations, d'expérimentations visuelles, sonores, qui sont produites alors par des étudiants. Hein, je pense à des étudiants des écoles qu'on a sur Toulouse, hein, l'ESMA par exemple, avec qui on est en discussion et qui fait des très très belles productions. Et puis, bien sûr, d'autres en France. Et donc, l'objectif, ce sera de pouvoir donner l'opportunité aux Toulousaines et Toulousains de pouvoir découvrir ce type de production, ce type de film, ce type d'imaginaire qui sont produits par les nouvelles technologies.
Donc l'exposition à l'écoute du vivant, est-ce qu'il existait préalablement déjà une volonté commune ou des velléités de collaboration entre le Quai des Savoirs et le Musée des Abattoirs, ou est-ce que là c'est un peu l'occasion qui a fait le larron, il n'était pas question de faire une année blanche, on ne pourra pas faire d'exposition au Quai des Savoirs, il y a une possibilité aux abattoirs, trouvons un objet pour cette exposition.
Oui, en fait, c'est vrai que c'est la première fois donc qu'on fait cette collaboration avec le Musée des Abattoirs. Bon, le Musée des Abattoirs, on se connaît bien depuis un moment. C'est eux qui ont, par exemple, le dépôt du fonds de l'Observatoire du CNES, de l'Observatoire de l'Espace, hein, du CNES, qui est un fonds très particulier et très intéressant en France et même, je dirais, à l'échelle européenne, qui est en fait une collection d'art contemporain qui est produite à travers des résidences de création au CNES, hein, donc le Centre National d'Études Spatiales. Je parle bien du CNES que tout le monde connaît. Et qui a depuis longtemps maintenant développé une pratique de croisement entre art et science pour travailler sur les imaginaires de l'espace, par exemple, ce genre de choses. Et donc, ce sont les abattoirs à Toulouse, le Musée des Abattoirs, qui est dépositaire de ce fonds. Et donc, les abattoirs ont eu un intérêt aussi particulier, et Lauriane Gricourt en particulier aussi, pour explorer aussi ces façons d'aborder la réalité à travers la pratique scientifique. Donc, ça a été une opportunité de pouvoir travailler ensemble. Et on a commencé comme ça à évoquer toute une série de sujets. On n'est pas arrivé tout de suite sur le biomimétisme, autant vous dire. Hein. Au début, on était parti sur l'idée autour des univers immersifs et de la question de la fabrication des mondes, par exemple, voilà, puisque c'est des choses qui intéressent à la fois des chercheurs en plein de disciplines différentes, mais aussi des artistes. Et voilà, et de fil en aiguille, on a comme ça avancé pour préciser un peu nos intentions. On s'est retrouvé finalement plus, je dirais, sur des enjeux, allez, on peut dire philosophiques ou en tous les cas intellectuels, on va dire réflexifs, plutôt que simplement plastiques ou esthétiques. Et donc, on s'est retrouver sur cette idée que artistes et scientifiques aujourd'hui sont, j'allais dire, légitimement, comme beaucoup de citoyens, préoccupés par ce qui arrive à notre planète et par l'état du monde d'aujourd'hui, avec cette préoccupation de quand même de le garantir pour les générations futures, enfin de pouvoir quand même laisser en héritage une planète qui soit pas trop dégradée. Et donc chacun à leur manière, les scientifiques et les artistes contribuent à la fois à la prise de conscience en documentant, en permettant de mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi en proposant des solutions. Et c'est ça qui nous a intéressé, c'est qu'il y a aussi certains artistes, dont un dont on va parler, qui est présenté dans cette exposition, Jérémy Gobet, qui allie sa pratique artistique avec une pratique de réparation du vivant. Et c'est ça qui nous a intéressé, c'est de voir comment chacun, à leur manière, les artistes et les scientifiques, sont impliqués et s'impliquent. Alors certains, évidemment, s'impliquent, s'engagent, en fait, dans cette préservation de nos écosystèmes. Et aussi, il faut le dire, nous, les institutions culturelles, c'est aussi un rôle important qu'on joue à travers un musée d'art contemporain et un centre de culture scientifique, de nouer des alliances pour justement essayer d'aller dans le même sens et dans un sens positif et optimiste.
Donc vous avez retenu cette thématique et ce nom d'ailleurs pour votre exposition à l'écoute du vivant, biomimétisme entre art et science. Et pour commencer, je pense qu'il faut qu'on définisse ce qu'est le biomimétisme. Ouais. En général, avant de parler de biomimétisme entre art et science, est-ce qu'on peut dire que c'est l'imitation de la nature ou est-ce que c'est l'imitation dans la nature ?
Alors, en fait, le biomimétisme, c'est à la fois l'imitation de la nature, mais je dirais pour la nature. C'est-à-dire que on parle de manière générale, depuis le début de l'humanité, de toute manière, de bio-inspiration. C'est-à-dire que, bah oui, les humains, depuis le début, pour réussir, enfin, ils ont observé ce qui était autour d'eux, et donc pour résoudre des problèmes, pour s'inspirer, ils ont forcément, voilà, regardé comment faisaient les animaux, même les végétaux, etc., et eux-mêmes. Et donc, on a toujours appris de la nature. Et donc, ça, cette bio-inspiration, c'est quelque chose, je pense, qui est totalement humain, mais qui est propre au vivant. C'est-à-dire qu'en fait, le vivant, et c'est ça qui est intéressant quand on discute avec des biologistes aujourd'hui, c'est que le vivant, il est pas, chacun n'est pas isolé dans son couloir de nage, chaque espèce n'est pas isolée, mais il y a énormément de collaboration, il y a énormément d'interaction, il y a énormément d'inspiration entre mutuelles, hein, entre les organismes vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux sur notre planète. Et donc, on fait pas exception, nous les humains, et donc on s'est tout le temps inspiré du vivant. Le biomimétisme, c'est une notion qui apparaît beaucoup plus tardivement, hein, à la fin des années 90, enfin à la fin du 20e siècle on va dire, et qui est en fait la notion donc de bio-inspiration augmentée, je dirais, de cette idée de restauration du vivant et de réparation. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'en s'inspirant du vivant, à la fois formellement, au niveau des formes, des couleurs, mais aussi de la manière dont le vivant est organisé, dont le vivant s'organise. Bah, par exemple, comment une termitière fait pour vivre toujours à 20 degrés alors qu'elle est en plein milieu du désert et qu'il fait 40, 50 degrés à l'extérieur. Comment ça se fait qu'à l'intérieur de cette termitière, il fait toujours 20 degrés, la température est complètement stable. Eh bien, cette organisation du vivant, elle nous inspire pour résoudre des difficultés d'aujourd'hui. Et en plus de ça, cette idée que ça va nous permettre aussi d'aider le vivant en retour, en quelque sorte, d'aider à le restaurer, d'aider à le préserver et de prendre soin du vivant à travers justement des techniques qui sont inspirées du vivant.
Oui, parce que en quoi existe-t-il un biomimétisme entre arts et sciences et comment l'exposition se propose-t-elle de le mettre en évidence ?
Alors, le biomimétisme entre art et science, il est dans les collaborations que vont nouer certains artistes et certains chercheurs. Il y a beaucoup d'artistes qui se disent chercheurs aussi et qui d'ailleurs travaillent avec des laboratoires de recherche. Une des artistes, Paola Nishijima, qu'on présente dans l'exposition, elle a une pratique très, j'allais dire quotidienne presque, de collaboration avec des laboratoires de recherche en Espagne, en Allemagne. C'est quelqu'un qui est très très intéressé par à la fois les protocoles de recherche et puis ce que nous apprend la recherche et comment dans une pratique artistique, on peut aussi contribuer à augmenter les connaissances, à mieux connaître en fait le vivant et expérimenter un certain nombre de choses. Donc on a fait le choix dans cette exposition de présenter des œuvres déjà réalisées et puis chemin faisant, ben, en fait il y a une création qui est venue finalement dans l'exposition parce que Jérémy Gobet, donc, qui travaille sur les coraux, donc un travail tout à fait intéressant, a découvert que dans la collection des abattoirs il y avait des coraux et donc il a voulu réaliser une œuvre originale à partir des coraux qui sont dans la collection des abattoirs. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu au début, c'est ça qui est intéressant dans ce type de projet, c'est que bah, chemin faisant, dans les discussions, dans les collaborations avec aussi les artistes, on a finalement débouché sur un projet qui n'était pas exactement celui du départ, mais c'est toujours intéressant parce que les projets sont aussi vivants finalement que tout ce qui nous entoure.
Les arts concernés donc, par cette exposition, bon, c'est les arts plastiques, au sens large,
oui.
On va dire, on est obligé des abattoirs, mais les disciplines scientifiques qui sont concernées, ce sont lesquelles ?
Alors c'est plutôt les sciences de la vie, c'est-à-dire que biologie au sens très large, hein, science de la vie dans le sens où bah, pour s'inspirer du vivant, il faut comprendre comment il fonctionne. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu, comprendre comment il fonctionne. Donc que ce soit Jérémy Gobet avec les coraux, donc il a fait lui-même toute une démarche, je dirais en autodidacte, hein, puisque c'est comme ça qu'il le présente, de compréhension de comment vivent les coraux, puisque les coraux, on oublie souvent, mais ce sont des êtres vivants, hein, c'est pas juste de la décoration au fond de la mer.
Oui, ça a l'air figé, c'est bien vivant.
Exactement, ça a l'air figé, mais c'est bien vivant, ça se reproduit et du coup, lui, en travaillant sur la dentelle, lui c'est quelqu'un qui est formé aux arts plastiques, hein, aux beaux-arts en fait, exactement, à l'école de Nancy, aux beaux-arts de Nancy. Il a été ensuite aux arts déco à Paris, donc il s'intéressait beaucoup à toutes les techniques aussi traditionnelles, notamment celle de la broderie. Et en travaillant sur la broderie et en regardant des coraux, il a fait une, comme souvent c'est un point de départ de cette inspiration, c'est formel. C'est-à-dire que, voilà, formellement, ah, il s'est dit qu'il y avait des points de broderie qui ressemblaient en fait à ces coraux. Et puis puis avec une conscience écologique de comment les coraux aujourd'hui, la situation que vivent les coraux aujourd'hui, avec donc le changement climatique, l'élévation de la température des mers, et puis de la concentration de gaz carbonique dans la mer qui augmente l'acidité des océans. Et l'acidité des océans, augmenter l'acidité des océans, en fait, ça équivaut à tuer tout ce qui est calcaire, on va dire, d'une certaine manière. Et donc, les coraux en particulier, depuis la fin de l'année dernière, hein, 2025, il y a un rapport scientifique international qui a en fait tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on avait passé le point de bascule à l'échelle planétaire de la disparition des coraux. Enfin, c'est-à-dire qu'on a passé le moment où les coraux étaient capables de se régénérer par eux-mêmes. Et là, en ce moment, ils commencent vraiment une extinction, alors qui est lente, donc on ne voit pas. En plus, c'est dans les océans, donc on la voit pas, on l'a pas sous nos yeux. Mais c'est quelque chose qui est en train de se déployer, donc ce qui est assez grave, parce que les coraux, c'est un des éléments fondamentaux pour les écosystèmes marins, pour venir nourrir évidemment les poissons, mais toutes les chaînes alimentaires aux océans. Et à partir du moment où on déséquilibre ces chaînes alimentaires, on déséquilibre l'ensemble du système, et un jour ou l'autre, c'est nous-mêmes qui allons être totalement déséquilibrés. Donc cette donnée que nous apporte la connaissance scientifique, Jérémy Gobet, il s'en est emparé très fortement, et donc son projet, ça consiste à la fois à s'inspirer des formes des coraux, mais surtout à fabriquer des sortes de tuteurs, on va dire, à placer au fond des océans pour faire repousser les coraux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois, donc, il s'inspire de la forme, il étudie le corail, et en même temps, il essaye de contribuer à freiner sa disparition, même à lutter contre sa disparition, puisque les coraux produisent des larves qui vont être balayées par les océans ou avoir besoin d'accroches pour pouvoir repousser. Et donc, les productions de Jérémy Gobet, à partir des tissus qu'il est en train de broder, il les remet au fond des océans, et c'est là-dessus que les larves vont s'accrocher.
Alors, moi, ce que je comprends aussi dans cette exposition, c'est qu'au-delà de l'aspect artistique, esthétique et même scientifique, il s'agit aussi, d'un point de vue philosophique peut-être, d'amener le visiteur à reconsidérer notre rapport, son rapport au vivant et la place que nous tenons, nous, l'homme, dans le monde.
Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est reconsidérer le rapport au vivant, c'est le regarder autrement, sous plein d'angles différents. On peut prendre aussi l'exemple de Paola Nishijima. Son inspiration, elle l'appuie dans ce qu'on appelle les plantes coussinets ou les plantes coussins, qui sont en fait ces plantes, vous savez, quand vous êtes en montagne, quand vous montez en altitude, vous voyez des sortes de boules végétales, donc qui sont constituées en fait d'une seule ou de plusieurs espèces végétales, et qui sont une manière pour ces plantes, l'évolution a fait qu'elles ont trouvé un moyen extrêmement efficace de lutter contre le froid, le gel, les conditions qui peuvent être extrêmes plus on monte en altitude. Et en fait, ces plantes coussinets, les scientifiques qui les étudient découvrent qu'elles abritent elles-mêmes des écosystèmes complets, et que en fait, ces plantes se nourrissent aussi, enfin se nourrissent pas au sens forcément alimentaire, mais utilisent aussi le fait d'abriter en leur sein d'autres espèces qui vont venir comme ça interagir et leur apporter des services écosystémiques, comme disent les scientifiques. C'est-à-dire qu'elles vont en fait nouer des relations, des interrelations, elles vont être interdépendantes. Et elles vont vivre comme ça pendant parfois même très longtemps. Elles ont une durée de vie qui est très longue. Elles poussent de manière extrêmement lente. C'est-à-dire qu'elles poussent de l'ordre de 1 cm par an, hein, 1 à 2 cm par an pour celles qui poussent le plus vite possible. Donc c'est vrai que quand vous allez en montagne, vous avez l'impression que c'est figé. Ça aussi, c'est un petit peu comme les coraux ou comme les lichens par ailleurs. Voilà, on n'a pas l'impression que ce sont réellement des êtres vivants, ou en tous les cas qui sont dans un état totalement stable. Et du coup, Paola s'est inspirée de ces plantes coussinets, et elle s'en est inspirée pour à la fois mieux les comprendre et essayer de voir comment ce qui se passe à l'intérieur de ces écosystèmes pouvait être utilisé, donc quelles données on pouvait récupérer par des capteurs, par toute une technologie scientifique, pour essayer de s'inspirer de ça pour fabriquer des villes résilientes. Il y a un élément qui est intéressant chez les artistes qu'on présente, et notamment souvent les artistes qui travaillent sur le biomimétisme, c'est que souvent ça a trait avec l'urbanisme ou l'architecture. C'est-à-dire que c'est souvent la manière de comment imaginer, et ça c'est Pierre-Jean Gilloux par exemple, qui lui imagine les villes du futur avec des approches justement inspirées du vivant, et en essayant de construire une ville qui soit beaucoup plus en interaction, et une ville qui soit beaucoup plus, j'allais dire, solidaire, en tous les cas, dont tous les services participent et sont en interaction. Et ça, c'est une réelle inspiration du vivant, comment le vivant s'organise en écosystème pour que nous puissions, une ville c'est un écosystème, on va dire un grand écosystème, et donc comment on peut s'inspirer du vivant pour ça.
Quel parcours vous présentez et vous proposez aux visiteurs de l'exposition pour illustrer la thématique que vous avez choisie ?
C'est un parcours qui est assez simple, hein, on va dire. Il faut dire que, donc, vous savez, actuellement, il y a cette très belle exposition aux abattoirs Jean-Charles de Castelbajac au rez-de-chaussée. Et donc, nous, nous sommes au sous-sol quand on descend vers la salle avec le très beau rideau Picasso, comme on dit. Il y a un perron avec deux salles d'exposition. Et donc, là, l'exposition À l'écoute du vivant occupe, en fait, le perron et une salle d'exposition. Et donc, on a fait le choix de présenter les artistes ensemble dans la salle d'expo. Et puis, sur le perron, on propose aux visiteurs de mieux découvrir ce qu'est le biomimétisme, la différence avec la bio-inspiration, à travers différents exemples qu'on peut connaître ou pas. Et donc, là, je vous laisserai découvrir, par exemple, les différentes applications qui peuvent naître de l'observation et la connaissance de la peau de requin, par exemple, qu'on va évidemment trouver sur des combinaisons de natation, mais aussi chez Airbus. Et donc, ça, c'est intéressant parce que, notamment, l'aéronautique fait beaucoup de sources, beaucoup de ces innovations technologiques dans la nature. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier et fascinant. Et puis, dans cet espace, on a aussi voulu donner la parole à deux scientifiques qui sont des scientifiques à la fois du vivant, bien sûr, des biologistes, mais qui travaillent aussi en particulier sur le biomimétisme et sur, finalement, ce nouveau rapport au vivant que certains appellent de leur vœu. Et donc, on a donné la parole à Kalina Raskin, qui est la directrice du CEBIOS. Le CEBIOS, c'est le centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme en France. Donc, ce n'est pas vraiment un centre de recherche comme le CNRS, enfin, ce n'est pas un organisme de recherche, mais ils ont beaucoup de collaborations avec le monde scientifique académique. C'est une coopérative, en fait. Donc, là aussi, une petite inspiration du vivant. C'est une coopérative qui, à la fois, fait de la recherche et aussi fait du conseil, de l'accompagnement, à la fois aux collectivités locales, enfin, aux services publics, aux pouvoirs publics, et puis aussi au monde économique, aux entreprises. Et donc, ils essayent de faire cette articulation, finalement, entre tous les acteurs de la société, ce qui est assez intéressant, pour montrer comment le biomimétisme peut aider à la fois à une innovation peut-être plus responsable, plus durable, et aussi à résoudre des difficultés très concrètes. Hein. Donc, c'est très concret, tout ça. Et puis, l'autre chercheur à qui on a donné la parole, c'est Olivier Amand. Lui, il est biologiste, il est directeur de recherche à INRAE, il travaille à l'École normale supérieure de Lyon, et il développe, lui, toute une réflexion autour de la robustesse du vivant, c'est-à-dire que dans son travail, alors il étudie les végétaux, hein, en particulier, et dans son travail de recherche, alors qu'il ne mène pas tout seul, évidemment, puisque la recherche, hein, vous savez, c'est vraiment très collectif, il découvre, en fait, comment, à travers différents dispositifs de redondance, par exemple, de résilience, comment le vivant est durable, parce qu'il faut dire quand même qu'il existe depuis plusieurs milliards d'années. Et donc, comment la vie, on dit le vivant et la vie, c'est équivalent, hein, comment elle se transmet et comment elle arrive à justement perdurer. Et lui, son point, c'est de dire on devrait plus s'inspirer du vivant dans cette capacité à être durable, à être résilient, par exemple, que d'aller vers des stratégies qui sont portées par ce qu'il appelle la performance, c'est-à-dire finalement aller le plus vite possible, le plus loin possible, parfois le plus seul possible, alors que ça, par exemple, le vivant ne le fait jamais. Et le vivant, lui, pour durer, il le fait de manière beaucoup plus collective, beaucoup plus lente et beaucoup plus redondante. Et donc, c'est deux visions qu'on partage ou qu'on propose au public, sachant qu'il ne s'agit pas de décider ou de voter quoi que ce soit. C'est bien sûr pour réfléchir et pour avoir des points de vue comme ça un peu partagés.
Donc, trois artistes et leurs œuvres, Pierre-Jean Gillou, Jérémy Gobet et Paola Nishijima, et puis deux scientifiques, Kalina Raskin et Olivier Amand, donc, qui vont croiser leur regard. Cette exposition, elle s'adresse à tout le monde. À partir de quel âge on peut y emmener les enfants, par exemple?
Oh bah, à partir de 6 ans, 7 ans, enfin voilà, à partir même un peu avant. Quand je dis 6-7 ans, c'est parce qu'on a des...
Pour lire,
des, c'est pour lire, voilà, c'est ça, parce qu'il y a un jeu, vous verrez, il y a un petit jeu qui est sympa sur le biomimétisme. Donc voilà, il faut lire les réponses. Après, il y a beaucoup d'images, évidemment, et donc c'est très accessible. On a voulu, évidemment, avec Lauriane Gricot, que ce soit une expo très accessible. Il ne s'agit pas du tout de dire, attention, c'est réservé à quelques-uns. Donc c'est absolument pas l'état d'esprit, et c'est pas du tout l'état d'esprit des abattoirs, ni du Quai des Savoirs en général. Donc non, c'est complètement ouvert à tout le monde. Après, voilà, ce sont vraiment, il faut le prendre aussi comme, là aussi, comme des inspirations, c'est-à-dire comme des choses qui vont parler à votre imaginaire, à votre sensibilité, à votre réflexion, à votre raison. Il y a des choses qui peut-être vous parleront moins que d'autres, et puis c'est pas pareil chacun, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces croisements entre art et science, c'est que bah, il y en a un peu pour tout le monde, si je peux dire, et puis aussi chacun peut se faire sa propre opinion et avancer dans sa propre réflexion.
Est-ce qu'il y a d'autres propositions autour de l'exposition ? J'ai vu qu'il y avait un journal de l'expo.
Oui, alors on a fait un journal de l'exposition pour ceux qui veulent un peu en savoir plus, qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir des références par rapport à cette question du biomimétisme, qui veulent en savoir plus sur qui sont ces artistes, les scientifiques qu'on a rencontrés. Donc c'est un journal que vous pourrez trouver à la librairie des abattoirs et puis à la librairie aussi du Quai des Savoirs qui reste ouverte pendant les travaux, puisque je rappelle qu'on accueille aussi toujours les familles avec le Quai des Petits, hein, qui n'est pas en travaux lui. Et qui fonctionne toujours aussi bien. Et puis notre plateau créatif aussi, là, qui redémarre bien, donc pour les adolescents. Donc voilà, on a ce journal d'exposition. On prépare aussi une nuit des musées un peu folle au mois de mai avec les abattoirs. Donc on ne fera pas la nuit des musées au Quai des Savoirs comme d'habitude, parce que voilà, comme on n'a pas cette exposition, on ne la fera pas au Quai des Savoirs. Mais du coup, on a décidé de la faire ensemble avec l'équipe des abattoirs. Et donc là, voilà, on vous prépare quelques surprises assez sympas qui vont croiser les thématiques du musée, hein, c'est-à-dire la mode avec Castel Bajac et puis le vivant. Et donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, mais surtout je vous donne rendez-vous en mai pour venir découvrir cette nuit des musées.
Oui, et puis toujours en ce qui concerne les propositions autour d'exposition, vous avez organisé les rendez-vous avec le vivant. C'est quoi? Ce sont des ateliers, des animations, des rencontres, des conférences?
Oui, alors c'est un certain nombre d'ateliers et de conférences autour de cette thématique. Donc on va en faire pendant les vacances de Pâques, donc et au Quai des Savoirs en particulier. Donc l'idée c'est de faire le lien entre les deux établissements aussi, donc de renvoyer les gens à la fois du quai vers les abattoirs et puis les abattoirs vers le quai. C'est pas si loin, hein, y a le bus 66 de la ligne TCO d'ailleurs qui nous relie, donc je le dis à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On encourage toujours nos visiteurs à venir par les transports en commun, hein, puisqu'on est super bien desservi au Quai des Savoirs et aux abattoirs. Donc on va faire ces ateliers autour du vivant qui sont pour tous les publics, hein, encore une fois. Et puis on a aussi, je l'ai pas évoqué, mais on a des résidences de création au Quai des Savoirs, hein, où on encourage en fait les artistes à s'intéresser aux sciences, à s'impliquer dans les démarches scientifiques. Donc Jérémy Gomet d'ailleurs a été en résidence au Quai des Savoirs pour faire cette exposition aux abattoirs. Et puis on a aussi d'autres artistes qu'on va avoir en résidence et qui vont faire des présentations aux abattoirs. Et donc on va avoir comme ça un certain nombre de croisements pendant toute l'année, y compris jusqu'à la rentrée d'automne, hein, puisque là aussi on aura des conférences croisées.
Eh bien, nous allons conclure ce numéro. Merci infiniment, Laurent Chicoineau, d'être venu nous présenter l'exposition « À l'écoute du vivant, biomimétisme entre art et science ». Elle se tient donc au Musée des Abattoirs du 3 avril au 1er novembre 2026. Pour connaître les horaires d'ouverture, la programmation autour de l'exposition et pour vous renseigner de manière générale, je vous invite à consulter le site www.quaidessavoirs.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Enzo Basile. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.